6h21, la Coupe du Monde de foot en Russie a débuté hier. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la discipline, voici un livre surprenant. Bonjour Olivier Petit.
Bonjour.
Vous êtes éditeur et auteur d'histoires incroyables de la Coupe du Monde chez Petit à Petit. Alors c'est ce qu'on appelle un docu-BD dans lequel on retrouve des histoires connues mais aussi méconnues ou oubliées de la Coupe du Monde. Et je disais à l'instant que votre livre est surprenant parce qu'on y apprend que le foot finalement n'est pas qu'une histoire de ballon et de joueurs.
Non, évidemment, c'est presque un alibi. En fait, la Coupe du Monde, c'est surtout un enjeu économique extraordinaire et aussi beaucoup d'enjeux politiques derrière.
Alors précisément, il y a plein d'histoires incroyables. Moi, je voudrais commencer par la première, 1930, la première Coupe du Monde. C'est incroyable ce qui se passe, comment elle s'organise en fait.
C'est un Français, Jules Rimet, qui décide d'organiser la Coupe du Monde, sauf qu'elle va avoir lieu en Uruguay. Que les footballeurs sont tous des amateurs, il faut convaincre les patrons de laisser leurs ouvriers partir, il faut traverser la mer, donc beaucoup de pays refusent, et en plus quand ils arrivent là-bas, il neige.
Et ils vont, donc la traversée va durer 15 jours,
voilà, c'est ça ? La traversée dure 15 jours, oui. Et quand ils arrivent en Uruguay, il fait un froid de canard alors qu'ils pensent arriver au soleil, ils s'entraînent sur le bateau, c'est complètement...
Oui, en plus il y a plusieurs équipes à l'intérieur, il n'y a pas que les Français.
Complètement étonnant, ils sont 4 équipes, ouais.
Et la France part sans entraîneur.
Voilà, tout à fait. Parce... Et l'Uruguay gagne.
Alors, c'est plein d'histoires qui fourmillent. Le foot, on le dit, c'est du sport, mais il se joue beaucoup de choses au mondial. Et dans les histoires que vous racontez, il y a celle de Matthias Sindelar, cet Autrichien qu'on surnommait le Mozart du foot.
C'est le plus grand joueur autrichien de l'histoire. Quand Hitler annexe l'Autriche, Matthias Sindelar refuse de rejoindre cette équipe. On va le retrouver mort dans sa chambre avec sa femme, et on ne saura jamais si c'était un suicide ou si c'était un attentat. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'il était juif.
Et qu'il ne voulait pas aussi jouer donc pour l'Allemagne.
Il ne voulait pas jouer pour l'Allemagne, ouais. Mais c'était un dieu vivant, et c'est toujours un dieu vivant. Sur la tombe de Matthias Sindelar, chaque année, pour fêter sa mort, des tas d'Autrichiens se réunissent.
Alors, il y a dans votre livre des histoires aussi de joueurs incroyables, des gardiens de but sans gants, des joueurs qui jouent pieds nus.
Oui, on a eu le droit à tout en fait, ça s'est construit au fur et à mesure des Coupes du Monde, mais c'est parti de très loin, et l'avantage c'est qu'il y a toutes sortes d'équipes.
Alors, par exemple, la naissance de la Seleção, la sélection brésilienne.
En fait, au début, la sélection brésilienne, c'était pas du tout le football. C'était franchement amateur. Ils s'entraînaient pas. Ils jouaient un peu comme ils dansaient la samba. Ils étaient pas organisés. Ils faisaient la fête. Enfin, c'était un joyeux bazar, quoi.
Et de là naît un certain joueur qui s'appelle Leonidas.
Et oui, un nom mythique pour un joueur noir et qui a réussi à faire un match sans ses chaussures parce que ça c'était trop lourd et c'était gras. Il pleuvait et il a réussi à marquer. Et c'est devenu aussi une légende vivante, ouais.
Comment vous compilez ces histoires? Parce que vous avez sciemment choisi des histoires qui étaient anecdotiques, pour certaines pas tant que ça en fait.
L'idée c'était pas de faire un livre de plus sur la Coupe du Monde, l'idée c'était vraiment de raconter les petites histoires que personne ne connaît ou qu'on avait oubliées et susciter un intérêt et une curiosité par la bande dessinée et le documentaire.
Dans votre livre, Olivier Petit, Histoire incroyable de la Coupe du Monde, vous parlez précisément de la Seleção. Alors, il y a Pelé, il y a Garrincha, bien sûr, mais il y a aussi des joueurs sur qui on va jeter l'opprobre, un certain Moacir Barbosa.
Barbosa, c'était un rêve de gosse pour lui de faire la Coupe du Monde. C'était le gardien de but de l'équipe du Brésil. Et malheureusement, il a pris deux buts lors de la finale. Ils ont perdu 2-1 et il a été complètement banni. C'est lui qui a porté un peu le chapeau, on pourrait dire. Il a été banni du Brésil et encore en 94, il était interdit d'assister aux entraînements de l'équipe. Il a même racheté les buts pour les brûler. Il a été banni, il a été, comme il dit, moi pour un but, j'ai pris perpète.
C'est incroyable cette histoire, le Brésil et le foot.
C'est fusionnel, le Brésil et le foot, et on va encore le voir à la prochaine compétition qui démarre. Les gens vivent football, faut voir que c'est un pays pauvre et que le ballon réunit toutes les couches sociales, et c'est ce qui est passionnant, mais aussi des enjeux énormes qui peuvent aussi créer des discriminations terribles.
Et pour votre livre, Olivier Petit, il y a aussi les histoires, on va dire diplomatiques, en tout cas les relations entre pays. Alors, vous évoquez dans votre livre l'opération Condor.
Alors oui, c'est plus qu'une opération diplomatique, c'est une véritable...
Donc on est en 1978.
On est en 1978, c'est l'Argentine qui organise le mondial, et l'Argentine doit absolument gagner contre le Pérou pour se qualifier pour sa finale. Et en fait, les deux dictateurs vont échanger des otages contre des buts. C'est-à-dire qu'on va négocier... il nous faut absolument 4 buts, il faut qu'on gagne 4-0 contre le Pérou, ils vont gagner 6-0, mais ça va se négocier avec 12 otages qui auraient dû mourir et qui vont être sauvés, par l'intervention de la France notamment.
L'Amérique latine a une histoire importante avec la Coupe du Monde, et quand on parle de cette opération, voilà, il y a le côté diplomatique, il y a aussi les histoires de corruption, la Colombie qui est particulièrement touchée avec un joueur.
Ah bah oui, on a eu ce pauvre joueur qui a marqué un but contre son camp et qui a été tué par la mafia colombienne quand il est revenu au pays. Et parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans les paris, dans les transferts de joueurs en Colombie. Il faut voir que l'Amérique du Sud s'est aussi élevée par le football. En fait, beaucoup de gens dans le monde connaissent l'Amérique du Sud par le football. L'Argentine, le Chili, le Pérou, le Brésil, on les connaît plus par le football que par leurs décisions internationales au niveau économique.
À vous lire, Olivier Petit, parce que il y a des photos, il y a de la bande dessinée, il y a des explications. On se rend compte que ce sport, en fait, finalement, c'est un sport politique.
Complètement politique. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui s'y intéresse c'est des enjeux internationaux. Il y a beaucoup de choses qui se sont décidées suite à des résultats de Coupe du Monde. D'ailleurs, regardez aujourd'hui la Coupe du Monde en Russie, sans faire de polémique, c'est un enjeu politique. C'est une manière pour Poutine de redorer un peu l'image de son pays, qui a quand même été concerné par plusieurs conflits ces dernières années.
Une dernière question. La France a eu son lot d'histoires incroyables. On se souvient du match France-Allemagne. Mais celui qui est le plus intéressant, moi, je trouve, finalement, c'est le match France-Koweït en 82 à Séville.
Ah bah c'est une pantalonnade. France-Koweït, les joueurs s'arrêtent de jouer. Les joueurs koweïtiens s'arrêtent de jouer parce qu'ils ont pris un but et que, soi-disant, ils ont entendu un coup de sifflet imaginaire. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que le tchèque du Koweït descend sur le terrain pour dire à l'arbitre « Bon, maintenant, vous me remettez mon but. Hein. » Et l'arbitre va le remettre. Il sera limogé, le tchèque du Koweït devra signer un gros chèque. Et pour la petite histoire, ce pauvre tchèque sera un des otages qui sera tué sur le tarmac lors de la prise d'otage, lors de la première guerre du Golfe.
Donc, on rappelle, Olivier Petit, vous êtes l'auteur d'histoires incroyables de la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'histoires, c'est passionnant à lire. C'est paru chez Petit à Petit. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 5-7.
Merci beaucoup.